et les entreprises, quoi qu'il en coûte, c'est un peu la formule à la mode pour l'instant. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est dangereux pour le budget de l'État, ce quoi qu'il en coûte?
C'est tenable à un horizon de 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est dans le rapport entre deux grandeurs. Désolé pour ce langage au petit matin. En fait, vous pouvez vous endetter beaucoup si vous avez des revenus élevés. Le ménage riche peut se permettre d'emprunter plus pour sa maison que le ménage pauvre. Donc ce qui compte, c'est de voir combien il va falloir rembourser à la banque par rapport à combien vous gagnez et combien vous allez demain. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a deux grandeurs qu'il faut avoir à l'esprit. D'une part, les taux d'intérêt, c'est ce que l'État belge va devoir payer sur sa dette. S'il y a plus de dettes, il va devoir payer plus de charges d'intérêt. Oui, mais pas si les taux d'intérêt restent très faibles. D'un autre côté, ce qui compte, c'est la grandeur du gâteau économique, à tel rythme ce gâteau économique grandit. Puisque c'est lui qui va déterminer votre capacité à rembourser, c'est vos revenus de demain. Donc, si les revenus augmentent beaucoup, parce que le gâteau économique grandit, parce qu'il y a plus de travail, mais aussi parce qu'il y a plus d'inflation, vous pouvez vous permettre d'avoir de l'endettement. C'est la situation d'aujourd'hui.
C'est le rapport entre la dette et le PIB.
Exactement.
Le produit intérieur brut, la richesse qu'on produit. Si tout augmente, entre guillemets, ce rapport reste équivalent. Et donc, on est sécurisé sur les marchés parce que les taux sont faibles, mais on est dans une tendance à la hausse. À un moment donné, les marchés pourraient s'inquiéter d'une situation, notamment belge.
C'est pour ça que pour les 5 à 10 ans qui viennent, pas de souci, mais après, nous ne savons pas. Et c'est une forme de pari sur l'avenir que nous faisons en nous endettant lourdement. Aujourd'hui, nous savons que les taux d'intérêt vont rester bas. Mais on dit, mais non, ils viennent de monter brutalement. Oui, mais l'essentiel de la dette, il a été émis il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, à des niveaux de taux d'intérêt. Donc, pour ce que nous aurons à rembourser dans les années qui viennent, pour l'essentiel, c'est des emprunts avec des taux faibles.
Ce qu'on prépare en Belgique, c'est disruptif par rapport à ce que les autres pays européens font, ou justement, comme tout le monde le fait, on peut se permettre en Belgique de s'endetter.
Exactement. La Belgique est un mauvais élève structurel sur le plan budgétaire. Ça fait des décennies que nous sommes un peu moins bons que les autres. Mais en termes relatifs, nous sommes devenus un petit peu moins pires, si nous pouvions nous exprimer de la sorte, que les voisins. Regardez même l'Allemagne, paragon de vertu budgétaire, qui aujourd'hui sort de l'artillerie lourde également.
Alors, auscultons justement toutes ces dépenses, qui sont en fait un peu des bonnes nouvelles pour les ménages et les entreprises, parce que toute une série de mesures ont été actées. On va d'abord zoomer sur les entreprises. Avec cette mesure, coût 1 milliard d'euros, d'un gel en fait des cotisations patronales, les cotisations ONSS, pour les premiers trimestres 2023, le premier trimestre et le deuxième trimestre 2023. En quoi c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises?
Imaginez que vous ayez une augmentation de 10% de la masse salariale du fait de l'indexation. Là-dessus, vous allez payer côté patronal 30% de cotisations sociales. Le salarié va en payer 12 ou 13%. Mais reprenons que les côtés patronales, 30% sur 10%, ça vous fait 3%. En addition, vous devez payer 10% en plus, mais il y a ces 3% de cotisations sociales. Ce qu'on se dit, plutôt que d'exonérer l'augmentation liée à l'indexation comme on y pensait initialement, on diminue l'ensemble des charges, mais pour un même coût budgétaire.
Une baisse des charges patronales, ça veut dire un manque de revenus en moins pour la sécurité sociale.
Tout à fait.
Mais un milliard.
C'est tout à fait intelligent de le faire et j'ose espérer que ce sera structurel. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, c'est assez bizarre, nous taxons relativement peu la pollution et lourdement le travail. On préférerait aller dans l'autre sens.
Alors venons-en au ménage, là aussi d'énormes coûts, parce que prolongation de toutes les batteries de mesures qui existaient pour l'instant, une prolongation du fameux forfait énergie, c'est 200 euros pour novembre et décembre, ça sera prolongé en janvier, février et mars 2023, et aussi avec une réduction de TVA désormais à 6% maintenue structurellement. Ça, est-ce que c'est une bonne mesure de s'engager à une baisse de la TVA à 6% ad vitam aeternam?
Non, je la trouve mauvaise. Je la trouve mauvaise sur le plan écologique et environnemental, parce que c'est très très dur à entendre aujourd'hui. Mais il faut que tous nous sachions que dans 5 ans, dans 10 ans, l'énergie sera chère, et même à dire vrai, encore plus cher qu'aujourd'hui, aussi pénible que ce soit à entendre. Donc ça, c'est une mauvaise mesure. En revanche, un chèque de 400 euros sur deux mois, de 200 euros par mois, ça ne va pas troubler votre incitation à faire des économies d'énergie. Parce que quand vous consommiez peu ou beaucoup, vous allez avoir envie vous aurez ces 200 euros. Donc ça ne va pas réduire votre incitation financière à économiser. Tandis que si on réduit le prix de l'énergie, votre incitation à éteindre la lumière en sortant de la pièce est un petit peu plus faible.
On a parlé du coût pour la sécurité sociale, on parle du coût là sur l'énergie. Ces deux éléments nous incitent à dire, vous dites le quoi qu'il en coûte, à court terme ça va, sauf qu'il y a un choc du vieillissement de la population et un choc climatique. Est-ce que là, du coup, le quoi qu'il en coûte, il résiste?
Il résiste aussi longtemps que les États parviennent à se financer bon marché. C'est le cas aujourd'hui. Il y a un petit resserrement qui s'est dessiné au niveau des banques centrales et notamment en Europe. On pourrait redouter un dérapage généralisé. Ça marche aussi longtemps que nous faisons confiance. Si demain nous prenons tous peur, les taux d'intérêt seront plus élevés et là nous serons dans de sales draps.
Alors, on a parlé des dépenses, passons aux recettes. Les rentrées, normalement, dans le budget de l'État. La disparition, c'est lui d'une taxe sur le haut capital, le capital à risque plutôt, taxe sur les comptes-titres. Les socialistes avaient martelé que ça devait justement être une contribution de ce secteur sur le budget de l'État. Ça a disparu. À votre avis, pourquoi ? La charge symbolique est trop forte ?
La charge symbolique est forte, pourtant, je pense. La mesure est idiote. La mesure sur les comptes-titres, elle est très parcellaire. Et en ce sens-là, tout détenteur d'un patrimoine de 10 millions ne va pas être assujetti de la même manière à cette taxe. Donc la manière d'opérer est
mauvaise. C'est pas les riches, justement, c'est pas
les taxes. Non, les très riches y échappent. Je veux dire, si vous êtes actionnaire en direct d'une société pas cotée en bourse, vous n'aurez pas à payer cette taxe.
On taxe le capital à risque.
Le capital à risque coté en bourse est détenu selon certaines modalités. Donc c'est tout de suite un focus limité.
C'est technique, on voulait l'augmenter, c'est pas le cas pour finir.
Alors ce qui est dommage, c'est que je pense que dans les circonstances actuelles, il faut que les personnes qui ont des épaules plus larges soient davantage mobilisées et amenées à... C'est elles qui ont plus de moyens, c'est elles qui polluent le plus. Voilà deux bonnes raisons pour les amener à payer plus.
Et c'est pas le cas ici dans les lignes budgétaires que l'on va découvrir sans doute cet après-midi. Ce sont pas les épaules les plus larges qui vont contribuer à l'effort face à la crise énergétique ?
Marginalement. On ne peut pas dire que ce soit un paquet qui soit marqué par une forte volonté redistributive.
En tout cas, cette mesure visait à une rentrée de 250 millions par an en 2023-2024. À ce stade, on va être prudent parce que les négociations sont toujours en cours, elle a disparu. Par contre, on a supprimé l'avantage fiscal pour la deuxième habitation. Alors expliquez-nous qui est concerné par cette mesure pour l'instant et en quoi la suppression est une bonne ou une mauvaise chose.
Alors ça ne concerne pas grand monde. En Belgique, je crois qu'il y a environ 7% des Belges qui ont la chance d'avoir une seconde résidence. Cette seconde résidence, aujourd'hui vous pouviez encore bénéficier d'un système fiscal qui dans le temps était valable aussi pour la première maison qui concernait là 70% des Belges.
Donc on avait une déduction fiscale sur le prêt hypothécaire pour notre première habitation,
ouais, c'est plus ça avait été supprimé il y a
et on avait gardé l'avantage pour celui qui en avait une deuxième.
Ouais, c'était une hérésie.
Et donc ça c'est supprimé,
c'est supprimé.
Bonne chose.
Tout à fait.
Avantage supprimé sur les intérêts notionnels. Le fameux principe qu'on a vanté un peu partout à l'extérieur, quand on vantait l'écosystème belge, là, c'est une extinction totale de l'avantage fiscal des intérêts notionnels. C'est la fin, on tourne une page, en quoi
tout à fait.
C'est intéressant ou pas.
Vous savez, si vous avez une mesure, vous la réduisez de 95%, c'est encore mieux de la supprimer à 100%.
C'est un espèce de reliquat pour l'instant.
C'est un reliquat, c'était une source de complexification, c'est une bonne chose.
Même pour les petites et moyennes entreprises, pour faire décoller, entre guillemets, peut-être un tissu wallon...
Vous savez, je ne sais pas si le patron Dodo s'est dit en fonction de la fiscalité, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Donc je ne pense pas que ce soit déterminant pour ce qui est de l'entrepreneuriat.
Alors on continue, pour ceux qui nous suivent encore, à détailler l'ensemble de ces mesures. Un des gros enjeux apparemment de ces négociations, c'était d'essayer de toucher aux pensions des fonctionnaires notamment. Alors il y avait une contribution des pensions les plus élevées, il y avait une espèce de contribution de 4% pour ceux qui ont une grosse pension. On parlait d'une pension de plus de 5000 euros pour un isolé, donc c'était quand même une grosse pension. Ça s'est supprimé apparemment. Et on a aussi enlevé le système de péréquation des pensions des fonctionnaires. Alors expliquez-nous quel était l'enjeu de cette situation. C'était la liaison des pensions aux rémunérations des fonctionnaires actifs pour l'instant.
Exactement. Donc il y a toujours cette vieille idée qui prévaut dans les milieux syndicaux qui veulent présenter la pension des fonctionnaires comme étant du salaire différé. Et puisque c'est du salaire différé, il y a une forme de cohérence linguistique, si pas logique, à la chose. Quand le salaire, par exemple, des informaticiens était augmenté, ils trouvaient juste que les salaires... Enfin, les rémunérations des pensionnés en tant que retraités suivent... Non, pas le coût de la vie. Elles sont indexées. Elles étaient indexées. Mais si, par exemple, il y a pénurie d'informaticiens, il nous faut augmenter les rémunérations des informaticiens de la fonction publique, des agents statutaires informaticiens, tous les informaticiens retraités de la fonction publique bénéficiaient de cette même augmentation. C'est un système assez bizarroïde, ce qui a amené d'ailleurs que très souvent, les pouvoirs publics, pour ne pas devoir payer en plus de l'argent aux retraités, trouvaient des voies détournées pour augmenter leur fonctionnaires. Aujourd'hui, on supprime ça. C'est quelque chose dont, bien entendu, les salariés
bénéficient. On ne supprime pas, justement. On le laisse comme ça. C'est ce qu'ils sont là.
Il faudrait supprimer cette péréquation qui est une...
Eh ben, ça a été enlevé. Donc, on voit qu'il y a des trophées pour l'un, des trophées pour l'autre. Au milieu de tout ça, il y avait l'intention, l'ambition de faire une grande réforme de l'État. Une grande réforme fiscale, pas une réforme de l'État, c'est pas pour maintenant. Avec notamment un virage fiscal pour accentuer, doper le pouvoir d'achat de la classe moyenne qui subit la crise énergétique de plein fouet. Là aussi, il y a un report de cette réforme fiscale. En quoi c'est un handicap pour la Belgique dans ce mouvement de relance ?
Ce qui est surtout un handicap, c'est qu'en fait, ça aurait été financé par la suppression de ce qu'on appelle des niches fiscales, des dépenses fiscales, des mécanismes. Voilà, on simplifie. La Belgique est un pays d'une très très grande complexité et je pense que nous serions plus performants si nous avions, par exemple, à passer moins de temps à remplir nos déclarations fiscales, à faire appel à des conseillers fiscaux pour nous y aider quand on est une entreprise. simplifiée est fondamentale pour que nous puissions mieux fonctionner. Et ici, la réforme fiscale, ça aurait été cela. On baisse les taux, mais on supprime un certain nombre de dépenses fiscales.
Vous connaissez les arcanes politiques. À cette partie, est-ce que c'est possible, selon vous, dans le contexte actuel, d'avoir une vraie trajectoire budgétaire, une vraie trajectoire fiscale avec des choix même un peu radicaux?
Oui, si on osait faire trophée contre trophée. Nous savons que dans le système que nous connaissons aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là pour faire plaisir à telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Eh bien, on pourrait dire, je t'enlève ceci et toi tu m'enlèves ça, et ainsi c'est retrouvé. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est plutôt la neutralisation réciproque.
C'est ce qui se passe en ce moment.
Grand marchandage qui se passe en ce moment, effectivement. On a passé les mesures qui sont sur la table de ce gouvernement fédéral.